Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Candy Mafia. On aura ensuite trois chroniques Manois des éditions Keybooks. Donc on aura la chronique du volume 2 de An Hour of Romance, la présentation de A Returner's Magic Should Be Special et la chronique du volume 2 de A Thunder Heart, Comment je suis devenue la servante du duc. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine. On parlera d'une actualité à Taïwan avec un puissant séisme qui a fait au moins 7 morts et plus de 700 blessés. Et on finira avec une petite news musicale concernant le groupe Sexy Zone qui a révélé son nouveau nom. On commence donc l'émission avec la toute première chanson, c'est Somebody's Night de Eikichi Yazawa et on reviendra juste après pour la présentation du groupe Candy Mafia. C'était Eikichi Yazawa avec la chanson Somebody's Night. On passe maintenant à la présentation du groupe Candy Mafia. Donc c'est un groupe thaïlandais de ballades, dance, électro, pop qui a fait ses débuts en 2009 et qui s'est séparé en 2015. Il était sous le label Mono Music et se composait de 4 membres. On avait donc Net, qui était leader, chanteuse et danseuse principale, et aussi rappeuse de 2009 à 2015. Garn, qui était chanteuse principale et danseuse de 2009 à 2015. Bam Bam, du groupe Milkshake, qui était rappeuse principale, chanteuse et danseuse principale de 2009 à 2015. Et on avait également Milk, qui était rappeuse et chanteuse secondaire, ainsi que danseuse en 2010, de 2010 à 2015. On compte enfin une ex-membre, Nyun, qui était rappeuse principale, chanteuse secondaire et danseuse de 2009 à 2013. Donc avant leur début en tant que chanteuse, Candy Mafia était un groupe de dance cover nommé 5-2-1 qui a participé à de nombreux concours de danse et a aussi remporté le premier prix de 2 concours de danse K-pop. Après ces covers, chaque membre a participé activement à des concours de chant et de danse ainsi qu'à des auditions jusqu'à ce qu'elles passent toutes l'audition de leur label Mono Music et forment donc Candy Mafia en référence à un bonbon doux et sucré à l'extérieur, ce qui représente leur fraîcheur, mais qui cache également un goût acide à l'intérieur, ce qui représente leur puissance lors de leur performance. Pour leur premier single, Milk n'a pas pu rejoindre le groupe pour des raisons personnelles. Candy Mafia ne comptait donc que 4 membres. Elles se sont entraînées dur en danse, jusqu'à ce que le célèbre producteur de MV coréen, Cho Soo-yeon, accepte de prendre en charge leur premier MV. Les 4 jeunes filles sont donc allées en Corée pour continuer à s'entraîner et filmer leur MV Mafia, qui ne sera malheureusement pas apprécié par le public en raison des diverses ressemblances avec le MV Fire du groupe To Anyone. En juin 2010, le groupe revient avec son deuxième single, cette fois-ci accompagné de Milk. Ce single est plus dans le concept mignon, contrairement à leur premier single. Candy Mafia reçoit alors plus de soutien et les membres ont aussi eu l'occasion de participer à l'émission coréenne Star King avec les G20 qui sont du même label. En novembre, le groupe continue avec son troisième single et un nouveau look pour un genre plus orienté vers la pop dance. Les paroles racontent l'histoire d'une fille qui a le pouvoir de faire tomber amoureux la personne qu'elle aime en leur sorcelant. Après plusieurs mois de silence, Candy Mafia revient ensuite au mois de juin 2011 avec son quatrième single et un énorme changement par rapport à leur précédent single. Donc celui-ci présente un concept frais et mignon, s'intéressant plus aux paroles qu'à la chorégraphie. 5 mois après, le groupe sort un nouveau single, toujours dans le même concept, et l'année 2011 aura été l'année du succès pour les Candy Mafia, puisque le 9 décembre 2011, le groupe reçoit une invitation pour le 19e Korean Culture Entertainment Awards et remporte le Foreign Celebrity Singer Award le 15 décembre. Je rappelle qu'ils ont gagné tout ça en Corée, alors que c'est un groupe thaïlandais. Donc c'est la première fois que des artistes thaïlandais remportent ce prix. Le premier album du groupe devait sortir en novembre 2011, mais suite aux inondations, cette sortie a été repoussée au 12 janvier 2012. Les remises des awards s'enchaînent aussi en 2012 avec le Hot Group Artist du KAZ Award 2012 en Thaïlande et une récompense suite à leur performance à l'Asia Song Festival en Corée du Sud. Après avoir présenté leur nouveau titre lors de plusieurs events, les Candy Mafia dévoilent enfin le MV de leur nouveau single le 17 avril. Cette fois-ci sans Nune, qui a fait une pause pour se consacrer à ses études d'entrée à l'université. Pour la première fois, le groupe sort une chanson en anglais et cette chanson a été réalisée par des producteurs américains et coréens. Donc côté discographie, le groupe a sorti un album, Candy Mafia, le 13 janvier 2012, 9 singles, le premier Candy le 15 décembre 2009 et le dernier My Boy le 21 avril 2014. Et pour finir, elles ont sorti un digital single, Cliché, qui est donc paru le 16 avril 2013. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Candy Mafia. On commence avec Alzheimer et on viendra juste après pour la chronique du volume 2 de An Hour of Romance. Hey, what's up, Candy Mafia here. 심각해 변해 발뜨한 건 곧 다해, okay. 심플, 마이 대 파워 블러. 콘탄, 터파해, everybody die. 너의 하, 참 걸어가고 끊어. 그 불쌍 난 떠. I don't want like this. Yeah, it's a cold take and bang. Tell me, it got the shang today. I still cry, baby, you can cut die. Bang, ting, go plug, let her get the top move. What are you, great guy? No, 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 pin, be die. Cause I'm not saying bye, but I don't cut die. Ah, 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 oh, sorry.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Okay.
Donc c'était Candy Mafia avec la chanson Low Sugar. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de An Hour of Romance. Donc je rappelle que c'est un manhwa de genre comédie-romance qui a été écrit par Kim Yong-mi et prépublié dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue aux éditions Kakao avec 175 chapitres qui terminent la série, et la version française est parue en version reliée aux éditions Keybooks, donc avec pour le moment 2 tomes de sortie. Ce volume 2 est paru le 20 septembre 2023 au prix de 14,95€, et le volume 3 est prévu pour le 10 avril 2024, donc dans 2 jours. Le résumé de ce tome, alors qu'ils se sont rencontrés au temple pour qu'ils sont retournés au temple pour lever la malédiction, c'est la douche froide pour nos deux héros. Ils sont encore liés pendant un mois. Pour limiter les dégâts provoqués par l'échange de corps, ils décident de mettre en place des règles strictes. Mais les situations critiques se multiplient, les obligeant à passer de plus en plus de temps ensemble et à se découvrir davantage. Donc en quête de réponse à leurs questions, Juan et Dojin retournent au temple pour avoir une discussion avec le petit moine. Mais au lieu d'être rassurés, ils ressortent complètement abattus de cette entrevue. Non seulement cette malédiction a été provoquée par le petit moine, mais en plus celle-ci va perdurer pendant un mois entier. Les situations cocasses vont donc se poursuivre dès leur retour dans leur quartier, avec une sublime inconnue qui vient à la rencontre de Dojin pour lui faire une déclaration des plus étonnantes. Elle souhaite l'épouser. Le problème, c'est qu'elle vient de faire cette déclaration à Juan, l'échange de corps ayant eu lieu quelques instants auparavant. Mais qui est donc cette fille et quelle est donc son histoire avec Dojin? La femme d'affaires a sa curiosité piquée à vif, mais taira finalement ses questions en voyant la mine grave de Dojin quand il apprendra la nouvelle. Et pour ne rien arranger, l'échange du lendemain se fera en plein milieu d'une réunion de travail très importante, obligeant Juan, ou plutôt Dojin, dans le corps de Juan, à la quitter précipitamment en prétextant ne pas se sentir bien. Les soupçons parmi leurs collègues commencent à croître à force d'être vus ensemble et de constater des changements de comportement pour le moins étranges, surtout chez la jeune femme. Alors Juan et Dojin parviendront-ils au terme de cette malédiction sans se trahir? En tout cas, même s'il arrive pas mal de choses assez désagréables, ils ne peuvent tous les deux nier que cet échange a quelques bons côtés, car il leur permet à tous les deux d'apprendre à se connaître et à s'apprécier malgré leurs différences. Voilà, donc je rappelle que la série An Hour of Romance est à retrouver aux éditions Keybooks, avec à partir de mercredi 3 tomes, sinon si vous craquez dessus aujourd'hui ou demain, ça sera donc 2 tomes seulement pour le moment. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Hikari de Elisa qui a servi de premier ending pour l'anime Nabari no O, et on reviendra juste après pour la présentation du manhwa Returner's Magic Should Be Special.
Yeah.
Donc c'était Elisa avec la chanson Hikari qui a servi de premier ending pour l'anime Nabari no O. On passe maintenant à la présentation du manhwa Returner's Magic Should Be Special. Du titre original, Guiwan Joey Mabeoben Tukbyol Yaija Yap Apnida. Voilà, bon, désolé si j'ai un peu écorché le nom coréen. Donc c'est un manhwa de genre action, drame, aventure, fantasy, vie scolaire qui a été dessiné par Jun Sok-wook. Avec le chara-design de Orca à partir de l'œuvre originale du Sonan et prépubliée dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue en 2018 aux éditions Kakao avec 253 chapitres, la série étant toujours en cours, et la version française est parue en 2020 aux éditions Tapitoon avec 244 chapitres. Il existe aussi une version reliée qui est parue aux éditions K-Books le 11 octobre 2023, avec pour le moment un tome disponible au prix de 14,95€. Donc l'âge conseillé pour lire cette série est de 12 ans et plus, elle est pour public averti à cause de la violence modérée, et il existe également un light novel à l'origine de cette adaptation qui est terminé en 8 tomes en Corée du Sud, ainsi qu'une adaptation en animé de 12 épisodes de 24 minutes qui ont été diffusés du 7 octobre au 23 décembre 2023 et qui sont disponibles sur Crunchyroll, donc si ça vous intéresse de les découvrir. Une saison 2 de cet animé a par ailleurs été annoncée sans date de sortie précise. Donc un jeune homme a 3 ans pour réunir les meilleurs alliés et changer le funeste destin de l'humanité. La nouvelle pépite de DNC Whipton, le studio à l'origine de Solo Leveling. Le résumé de cette série, le labyrinthe des ombres, la pire catastrophe que l'humanité n'ait jamais connue, s'est ouvert sur Terre. Desire Herman est l'un des derniers survivants, mais il échoue à la dernière étape et doit assister impuissant à la destruction du monde. Il se réveille alors et découvre qu'il est revenu 13 ans plus tôt à son entrée à l'Académie de Magie. Desire a alors 3 ans pour s'entraîner avant l'apocalypse. Voilà, donc je rappelle que la série Returner's Magic Should Be Special est à retrouver aux éditions K-Books avec pour le moment un tome de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime, c'est Get Back interprété par Flo, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Get back, 僕のストーリーを け渡しちゃいけないね。人も嘘の心だけは静寂のクライ証明
Donc c'était Flo avec la chanson Get Back qui a servi de premier opening pour l'animé Returners Magic Should Be Special. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 10 avril avec Shippika, le volume 1 de After School Anako-kun, le volume 18 de Toilet Bone Anako-kun, et donc si ça vous intéresse, vous aurez également un coffret avec ce volume 18 de Toilet Bone Anako-kun, plus After School Anako-kun, volume 1. Voilà, donc soit vous achetez tout séparé, soit vous pouvez acheter les deux ensemble. On aura également le volume 3 de Blue Lock, épisode Nagi, le volume 19 de Blue Lock, la version normale, le volume 2 de Lecteur Omniscient et le volume 1 de Pino, l'intelligence artificielle émotionnelle. Chez Keybooks, on aura, donc je l'ai dit tout à l'heure, le volume 3 de An Hour of Romance, le volume 1 de Dites-moi Princesse et le volume 10 de True Beauty. Chez Mangetsu, on aura la sortie du volume 1 de C'est une belle journée pour un labyrinthe, le volume 3 de Fermat Kitchen, le volume 3 de Land, le volume 4 de Pumpkin Night, le volume 2 de The Alpine Climber et le volume 3 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Chez Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 3 de Diver, qui sera le dernier tome de la série, le volume 5 de Evol, le volume 1 de Studio Cabana, les volumes 6 et 7 de Wonder Rabbit Girl, donc ce 7ème tome sera le dernier tome de la série. Et donc vous pourrez soit pareil acheter les deux volumes séparément, soit acheter le coffret qui réunit donc les volumes 6 et 7 de Wonder Rabbit Girl. Ensuite chez Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 6 de Golden Gold, le volume 5 de Hira Yasumi, et on aura le volume 2 de Tokyo Talareba Girls, saison 2. Chez Nobinobi, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Honey Lemon Soda. Et chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 31 de Twin Star Exorcist et le volume 6 de Two-Faced Tamon. On aura ensuite d'autres sorties pour jeudi 11 avril avec chez Kurokawa le volume 13 de Demon Slave, le volume 24 de Hippo, la saison 6 The Fighting, le volume 10 de Kaijin Radio, le volume 18 de Kemono Incidents, le volume 2 du Goût des Fraises, le volume 19 de My Home Hero, le volume 5 de Partners 2.0, le volume 1 de She is Beautiful, le volume 2 de Skeleton Double, le volume 6 de Solitaire La Perfect Edition et le volume 11 de The Raidon King. Chez Michel Lafon, on aura la sortie du volume 7 de Hellfire Messenger, le volume 10 de Nina du Royaume aux Étoiles et le volume 5 de Tengu Hunter Brothers. Chez Meiyan, ensuite, on aura la sortie des volumes 9, 10, 11 et 12 de Kengan Omega, le volume 9 de Kuma 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 Beer, le volume 9, 10, 11 et 12 de Sleepy Princess in the Demon Castle, le volume 5 de Slow Life in Another World I Wish, le volume 3 de Tadokoro-san, et les volumes 5 et 6 de Yuri is my job. Chez Akata, on aura la sortie du volume 8 de Love Mix Up, le volume 4 de Stand Up, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Toutes les raisons de s'aimer. Et enfin, chez K-World, on aura la sortie du volume 7 de Moi, l'idole, qui sera le dernier tome de la série. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 12 avril avec chez Kana le volume 9 de Boys Abyss, le volume 21 de Gamalan, le tournoi ultime, le volume 6 de Kujo, l'implacable, et le volume 8 de The Yakuza's Guide to Babysitting. Chez Ototo, on aura la sortie du volume 15 de Danmachi Sword Oratoria et le volume 8 de Miyeru Kochan Slice of Horror. Chez Noef Graf, on aura la sortie du volume 1 de Karma of Purgatory et on aura également le volume 3 de Migratory Birds and Snail, qui sera le dernier tome de la série, ainsi que le volume 5 de Theogonia. Chez Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 13 de Manchuria Opium Squad et le volume 1 de Days Game. Et enfin, chez Cool Books, on aura la sortie du volume 3 de Rigel Afterlife. Voilà, c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Lullaby de Enyaq. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 du manhwa A Thunder Heart, comment je suis devenue la servante du duc. Donc c'était Enyaq avec la chanson Lullaby. On passe maintenant à la chronique du volume 2 du manhwa A Thunder Heart, comment je suis devenue la servante du duc. Donc je rappelle que c'est un manhwa de genre fantasy, historique, isekai, romance, qui a été écrit par Joe Hara, dessiné par Roa, et prépublié dans le Kakao. La version sud-coréenne est parue aux éditions DNC Webtoon et Kakao, avec 111 chapitres qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Keybooks, avec 111 chapitres également, ainsi qu'une version reliée en cours de parution avec 5 tomes. Voilà. Donc, du coup, on va parler de ce volume 2 qui est sorti le 15 mars 2023 au prix de 14,95€. Donc, le résumé de ce tome, je n'ai besoin que de toi. Alors que la malédiction de Liandro atteint son paroxysme, un miracle se produit. Evelina ne tarde pas à comprendre que l'histoire originale est en train de changer, tout comme son rôle auprès du jeune duc. Le manoir est en effervescence et de nouveaux personnages du roman apparaissent. Tous gravitent autour d'Evelina, ce qui n'est pas au goût de Liandro, dont les sentiments évoluent. Donc comme nous nous y attendions dans ce tome 2, la malédiction de Liandro est levée grâce à Evelina, sans que l'on sache pourquoi. Evelina en est la première surprise, c'est la princesse Eleonora qui était censée aider Liandro. Alors pourquoi est-ce elle qui l'a délivrée ? Evelina n'a pas le temps de se poser la question que la vie reprend déjà son cours au manoir. Liandro grandit à vue d'œil et devient le jeune homme qu'il a toujours été au grand plaisir de sa servante adorée qui le voit s'épanouir. Et parlons-en donc de Leandro. Ce deuxième tome est une belle transition sur son personnage qui reste toujours aussi attachant. Le petit garçon que l'on avait envie de câliner se transforme sous nos yeux en adolescent espiègle qui affirme au fur et à mesure son pouvoir. Celui qui est l'héritier d'un duché et d'une famille à la fois riche et influente doit désormais composer avec ses parents qui prennent d'un seul coup l'importance de son existence. Leandro vivra et n'est plus maudit, il doit donc apprendre l'art de l'étiquette et de la gestion d'une propriété et d'un titre. Au contraire d'un premier tome qui condensait son action en quelques mois, c'est la narration de plusieurs années qui prend toute sa place ici. Evelina est toujours servante mais passe de moins en moins de temps avec Leandro puisque le jeune homme est bien trop occupé avec ses fonctions et ses études. Malgré tout, leur relation ne se ternit pas et ils se retrouvent toujours avec plaisir lorsque Leandro a un battement entre deux impératifs. Pourtant, les choses se corsent pour Evelina. Celle qui était la seule et l'unique à s'occuper d'un enfant maudit se retrouve sous les feux des projecteurs à cause de cette même relation qui les lie. Comment se fait-il que Leandro la privilégie et ne veut qu'elle à ses côtés? La jalousie est un sentiment humain, certes, mais qui est bien trop douloureux pour celui ou celle qui le subit. Evelina devient un peu la cible des autres servantes qui ne supportent plus de l'avoir profité de tous ses avantages. La jeune fille subit une pression énorme qui commence vraiment à la peser. Cette pression lui fait même défaut lors de ses entrevues avec Leandro, avec qui elle a tendance à être trop familière. Comment se comporter avec celui qu'on a choyé et qu'on adore? Comment se positionner lorsque l'on n'est qu'une simple servante et que lui est l'héritier d'un duché? Surtout qu'en plus la gouvernante s'en mêle et fait bien comprendre à notre héroïne qu'elle ne doit pas outrepasser son statut. La relation intacte et pure de Leandro et Evelina s'en retrouve ébranlée sans qu'il ne le voie forcément. Evelina passe son temps à se demander comment réagir alors que Leandro revient vers elle en permanence, sans prendre véritablement en compte la gêne de la jeune fille. Le duo Leandro-Evelina est attachant et ce depuis le premier tome, c'est d'ailleurs ce tome introductif qui permet de créer la dynamique entre les deux personnages, dynamique qu'on adore. Leandro est un jeune homme un peu maladroit et tête de mule, et Evelina est la douceur et la bienveillance incarnée, avec un côté insouciant, voire naïf. Elle ne comprend jamais l'enjeu qui se cache derrière les sous-entendus de Leandro, et cela crée des situations cocasses et hilarantes. The Thunder Heart n'échappe toutefois pas à la romance, loin de là, c'est aussi pour ça qu'il intéresse. Honnêtement, la romance n'est pas omniprésente. Nous savons en tant que lecteur et lectrice que le jeune Leandro éprouve des sentiments pour Evelina. Il l'a lui-même reconnu au début sans comprendre réellement ce que ça voulait dire. Les remarques et les sous-entendus qu'il lui lance en sont des preuves. Mais Leandro est jeune, Evelina est une servante et pour l'instant rien ne peut arriver. Alors quand en plus les années passent et Evelina reste célibataire malgré son âge, les discussions de mariage au sein des servantes vont bon train. Car il semblerait que dans le monde de Leandro, les jeunes gens se marient jeunes, permettant ainsi aux filles d'obtenir une situation. Evelina est donc en première ligne pour subir le flot de questions de ses amis. Mignonne comme tout, Evelina ne laisse pas non plus son collègue Lorenzo insensible à son charme. Les deux jeunes gens se rapprochent sans qu'il n'y ait d'ambiguïté de la part d'Evelina. Ce qui alimente évidemment les rumeurs et la jalousie suscitée par les relations d'Evelina avec les deux garçons. Lorenzo attend désespérément qu'Evelina le remarque, Leandro est jaloux et essaye de lui transmettre ses sentiments, Evelina est à mille lieues de saisir toute la situation. Pour elle, Leandro prime tout simplement sans que cela ne soit une relation amoureuse de son côté. Son unique objectif est de le sauver de son destin, celui d'être condamné à la peine de mort pour trahison. Elle veut à tel point son bonheur qu'elle se jure de tout mettre en œuvre pour qu'Eleonora tombe amoureuse de lui. Alors Leandro prend son mal en patience et demande à Evelina de l'attendre. Ce second tome de A Thunder Heart ouvre également la porte aux intrigues de cour qui vont très probablement arriver par la suite. C'est par une circonstance assez particulière que Leandro et Diego, donc issus de la famille impériale Crescenzo, se rencontrent au détour d'un événement officiel. Evelina est témoin de cette scène quelque peu étrange entre les deux hommes et ne peut que s'en inquiéter. Dans l'histoire officielle qu'elle lisait avant d'arriver dans ce nouveau monde, Diego et Leandro étaient rivaux et se disputaient le cœur de la princesse Eleonora d'Ambrosetti. Retrouvailles explosives et gros tracas nous sont donc promis. Voilà, donc je rappelle que la série A Thunder Heart, Comment je suis devenue la servante du duc, est à retrouver aux éditions Keybooks avec pour le moment 5 tomes de parus. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sound of Music de Eason Speaker, et on reviendra juste après pour une actualité à Taïwan.
Go!
Donc c'était Eastern Speaker avec la chanson Sound of Music. On passe maintenant à l'actualité à Taïwan. Donc c'est le plus puissant tremblement de terre sur l'île depuis 25 ans. 7 personnes sont mortes et au moins 736 autres ont été blessées à Taïwan, selon un troisième bilan des autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7, qui s'est produit mercredi 3 avril. La gravité des blessures n'a pas été précisée et un premier bilan faisait état de 4 morts et près de 60 blessés. Tous les décès se sont produits dans la région de Hualien, près de l'épicentre de la secousse, dans l'est de l'île, donc ont annoncé les secours. 3 victimes ont péri sur un sentier de randonnée après la chute d'un rocher et la 4e dans un tunnel routier. Le séisme s'est produit peu avant 8h du matin, donc heure locale, et a été suivi de plusieurs répliques. Son épicentre a été détecté en mer, à faible profondeur, au large des côtes est de Taïwan. Sa magnitude a été estimée à 7,5 par l'agence météorologique japonaise, à 7,4 par l'Institut américain d'études géologiques et à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise. Le tremblement de terre a initialement déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, où la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs. Les autorités japonaises et philippines ont finalement annulé leurs alertes, et le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï aux États-Unis, a annoncé dans la nuit que la menace de tsunami était maintenant largement passée, tout en appelant les habitants des régions littorales à rester prudents. Voilà, c'est tout pour cette petite actualité à Taïwan. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Jajoma ni Sasenaide de Etsuko Nishio. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec News Musical.
ランマランマでなんだかんだと吸ったもんだのせい
Donc c'était Etsuko Nishio avec la chanson Jajomani Sasanaide. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Donc le 31 mars dernier, le groupe Sexy Zone a fait ses adieux à leur ancien nom afin de prendre un nouveau départ. Ce jour marque également le dernier jour pour Kento Nakajima au sein du groupe. La cérémonie d'adieu a été diffusée en direct sur Family Club Online pour les membres du fan club, ainsi que sur leur chaîne YouTube et leur compte Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo directement sur YouTube et tout ça. Donc pour rappel, en octobre dernier, les membres avaient annoncé qu'ils envisageaient de changer le nom de leur groupe, évoquant des difficultés liées aux promotions à l'étranger et au référencement de leur nom de groupe sur les réseaux sociaux et en ligne. Le 8 janvier, il est finalement annoncé que le changement de nom sera effectif le 31 mars et que le départ du membre Kento Nakajima interviendrait le même jour. Lors du live stream, le groupe a interprété plusieurs chansons de leur discographie, sélectionnées par les fans eux-mêmes à partir d'un questionnaire mis à leur disposition. Le groupe s'est ensuite remémoré leurs souvenirs passés à travers une rétrospective de leur carrière, en projetant plusieurs photos d'archives allant de leur début jusqu'à leur voyage à Dubaï ou Hawaï. L'ancien membre du groupe, Mariusio, est également apparu via un appel vidéo durant le live. Le lendemain, donc le 1er avril, lors d'un nouveau live en direct sur YouTube, le trio désormais composé de Kikuchi Fuma, Sato Shori et Matsushima So ont annoncé leur nouveau nom de groupe, donc il s'appelle maintenant Timeless. Ce nom vient donc de Timeless, qui fait référence à la chanson qu'ils ont sortie lors du départ du membre Marius Yo, et il s'écrit toutefois avec un Z à la fin, pour commémorer leur moment passé en tant que Sexy Zone. Après ça, le groupe a également révélé le nom de leur nouveau fandom, donc les fans s'appelleront maintenant Seagons, avec un Z à la fin. Le trio a aussi avoué qu'ils envisageaient d'intégrer de nouveaux membres via des auditions avec le projet Timeless Project en mai 2024. Les personnes souhaitant auditionner devront donc être de sexe masculin, non affiliées à une agence de divertissement et être âgées entre 18 et 30 ans. Les juniors de leur agence Starto Entertainment sont également autorisés à auditionner. Voilà, du coup, en attendant qu'ils sortent leur premier titre avec leur nouveau nom Timeless, on va s'écouter une chanson du groupe Sexy Zone, ça sera Kimidake Forever, donc on terminera l'émission avec ça. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
この手は震える君の手を離さない。
ないから傷ついているから立ち直れる愛とかわからないけど愛しか欲しくないけど僕ら恥ずかしがり屋で僕らは寂しがり屋でだけど出会えてよかった君を愛せてよかったきっと分かち合えるさ君だけ Forever Forever 守るよ Forever 僕を信じてそう ForeverForever 声を聞かせて声を聞かせて